France Bleu Héros, il est midi. Le journal Pascal Victory.
Un week-end ensoleillé, mais attention aux vents soutenus Mistral et Tramontane qui vont nous accompagner plusieurs jours. Les températures maximales atteindront quand même cet après-midi de 18 à 21 degrés. Et on part directement à Pézenas, qui voulait reprendre son record du nombre de personnes en marinière, ensemble et au même endroit. Battu par les Bretons de Roscoff le 6 avril dernier, il fallait plus de 417 personnes. Paul Tillier, vous êtes sur place alors, record battu ?
Record explosé, Pascal. Roscoff et la Bretagne peuvent aller se rhabiller. 924 personnes vêtues d'une marinière, 924 sur des airs de Bobby-la-Pointe, tic-tac, tic-tac, tout ça, je vous fais pas la chanson. Les habitants de Pézenas sont bien au rendez-vous. Il y a un monde fou sur cette petite place pavée du cœur de la ville. Alors évidemment, Pascal, le dress code, c'est rayures, rayures et encore des rayures. J'ai bien croisé une dame en robe léopard, mais sinon tout le monde a joué le jeu. Alors il y a tout, marinière blanche, liserée bleue, bleu, liserée blanc, bleu et rouge également, le tout. En fait, c'est que les rayures, elles soient à l'horizontale. Le comptage, il a été fait de manière très scrupuleuse, hein, avec des arbitres qui passent dans la foule. J'ai moi-même été comptabilisé avec ma marinière, au même titre d'ailleurs que Lilou et Pilou, deux chihuahuas un petit peu engoncés dans leur t-shirt parisien, mais ça compte. Eux aussi ont mis la main à la pâte, ou plutôt la pâte à la pâte, pour battre ce record du monde de nombre de marinières ici à Pézenas.
Voilà, 924, hein, on va être difficile à détrôner désormais. Reportage à retrouver en images sur francebleu.fr dès demain matin, et puis sur notre antenne dans les matinales. Un demi-hectare de pinède a brûlé hier au col de la Défriche, c'est au-dessus de l'Odève. Le feu a été rapidement éteint par les pompiers, mais la veille, il y avait déjà eu dans le même secteur 4 départs de feu, autant dire que l'hypothèse d'un pyromane est la plus vraisemblable. De nouvelles suppressions d'emplois sont annoncées chez Sanofi. Le géant pharmaceutique va supprimer 1200 postes dans la recherche et le développement, 330 en France. La majorité des suppressions de postes vont concerner, selon la CGT, le site de Vitry-sur-Seine. Il y en a quand même 25 de prévus sur le site de Montpellier. Et il s'agit là du troisième plan de départ en 5 ans, Julien Morcelli.
Les salariés se disent habitués au plan de départ.
Sanofi, les suppressions de postes, c'est un éternel recommencement.
Jean-Louis Perrin, secrétaire de la Fédération nationale CGT des industries chimiques, est lui-même salarié Sanofi.
Depuis 2008, Sanofi a perdu quasiment 50% de ses effectifs en recherche. C'est une catastrophe. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on regarde la branche industrie pharmaceutique d'angle global, sur les 12 derniers mois, c'est plus de 1200 suppressions de postes.
Sanofi justifie ses suppressions par l'arrêt de la plupart de ses programmes de recherche en cancérologie après une succession d'échecs. L'entreprise veut désormais concentrer ses efforts sur l'immunologie, où elle obtient des résultats plus prometteurs. Un désastre social qui aurait pu être évité, dénonce Jean-Louis Perrin.
Quand vous avez un secteur qui marche mal, il faut déjà se poser la question pourquoi il marche mal. Parce que depuis 2008, en oncologie, on ne fait que diminuer les effectifs. Donc, il y a un moment où, quand vous n'avez plus la force de recherche, vous ne trouvez plus. C'est Sanofi qui a lui-même tué son service de recherche en oncologie.
L'entreprise assure de son côté que ce changement de stratégie ne se fera pas au détriment de la France, qui concentre un tiers de ses investissements en recherche et développement.
Une nouvelle manifestation de soutien au peuple palestinien cet après-midi à Montpellier. Départ à 15h de la place de la Comédie. Le cortège va se rendre jusqu'à la mairie de Montpellier. Jusqu'à présent, les organisateurs n'avaient pas obtenu l'autorisation de s'y rendre. Les rugbymen montpelliérains jouent à Pau cet après-midi. Montpellier 13e, barragiste, mais à 4 points de Clermont et de Lyon dans cette course au maintien. L'entraîneur Patrice Colazo doit faire face à un problème de taille, le respect des quotas JIFF, c'est-à-dire des jeunes issus de la formation française. Vous allez mieux l'expliquer que moi, Valentin Plat.
Ce quota imposé par la Ligue nationale de rugby oblige les clubs français à faire jouer des jeunes tricolores issus de la formation dans le but de donner du temps de jeu à des futurs internationaux français. Sauf que depuis le début de la saison, le MHR n'est pas dans les clous. Il faut une moyenne de 16 gifs sur les feuilles de match. Les Montpelliérains sont à la traîne avec une moyenne de 15,5. Alors si à la fin de la saison, le contrat n'est pas rempli, le MHR débutera le championnat suivant avec 6 points de moins. Un vrai dilemme pour Patrice Colazo, qui a pour objectif de se maintenir avec ses meilleurs joueurs évidemment et donc en sacrifiant la jeunesse. Elle sait un peu choisir entre son père et sa mère, a déclaré le manager montpelliérain, qui ne souhaite pas lâcher un seul match et de précieux points avec une possible opération GIF où les 23 joueurs seront issus de la formation, histoire de faire remonter cette moyenne.
Espérons que les joueurs de Montpellier seront plus habiles que moi. Match à 17h à Pau. En Pro D2, Béziers a perdu à Aurillac 7-27 et 3e avec 6 points de retard sur le leader Vannes. C'est un projet d'envergure qui se prépare à Pérol au sud de Montpellier, à deux pas du port sec. Une friche d'environ 3 hectares qui va être complètement réaménagée. Et notamment le quai du canal du Gros de Pérol qui va accueillir 5 brasseries flottantes installées sur des barges. Et le maire Jean-Pierre Ricot veut rassurer tout le monde, on ne retombera pas dans les erreurs du passé.
On a un mauvais exemple, c'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec le restaurant La Cabane, qui pendant 3 ans a totalement exagéré, avait des fermetures nocturnes dépassées, avec un bruit, une musique qui dépassait les 94 décibels, qui est la limite maximum. Et donc on a eu beaucoup de nuisances pendant 3 ans. Dans l'objectif, ce sont des fermetures à 23h le soir et de la musique d'ambiance, la musique qui ne dépasse pas les 40 décibels. Alors ce sera un endroit de balade, il est prévu quelques équipements pour qu'effectivement les enfants puissent jouer, il y aura des bancs pour pouvoir se poser, des tonnelles qui seront végétalisées qui permettront d'avoir également de l'ombre. C'est quand même un endroit qui est très sensible, mais c'est un endroit qui est magnifique. Et quand il sera retraité, je pense que ce sera un véritable spot touristique pour Pérol, pour la métropole.
Et c'est prévu pour mars 2026. Tiens, une idée, le festival du jeu de société à Montpellier. Aujourd'hui et demain, au Corum, on attend plus de 10 000 visiteurs. L'entrée est libre et gratuite. Occasion de découvrir de nouveaux jeux, 300 tables de jeux qui seront là pour essayer, bien sûr, et se faire expliquer les règles. Je vous rappelle quand même que Pézenas a repris son record du nombre de marinières au même endroit, avec 924 personnes en marinière. Le record qui était détenu par les Bretons de Roscoff a été explosé. Dans un instant, on va retrouver Nathalie Elal. Bon appétit.
Les 4 et 5 mai, réjouissons-nous. C'est le retour de Saperlipopette au Domaine d'Eau. La 25e édition du Festival des Arts Vivants pour le Jeune Public vous attend à Montpellier. 13 spectacles pour tous les âges, un parc aménagé en un immense terrain de jeu, des ateliers, des déambulations, du cirque, un salon du livre jeunesse, de quoi se régaler en famille le temps d'un week-end. Programme complet sur domaine-doux.fr. Suivez Saperlipopette, les 4 et 5 mai, avec la radio partenaire France Bleu Héros.
Le dimanche, entre 10h et 11h, vous faites quoi ?
On se lève tranquillement, sans réveil, pour une fois.
Le dimanche matin à 7h06, c'est la lecture de la presse dans une boulangerie avec un thé.
Je suis chez moi avec mes filles, voilà, où je bouquine la presse, où je vais faire une marche, où je vais au cinéma.
Et bien sûr, France Bleu Héros, chaque dimanche matin, vous avez rendez-vous avec l'invité qui prend son temps. Une personnalité héraultaise qui se raconte, se confie et surtout qui prend son temps. Rendez-vous ce dimanche à 10h sur France Bleu Héros.
Et tout de suite, l'étape gourmande, Nathalie Elal.
L'étape gourmande sur France Bleu. Nathalie Elal.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre première étape gourmande du week-end. Une heure de recettes, d'anecdotes historiques, mais aussi de découvertes culinaires et de convivialité à partager comme un authentique casse-croûte. Vendu sur place ou à emporter à un large public, friand de nouveautés et de produits de qualité, les sandwichs, Club Sandwich et Croque-Monsieur raflent la mise au rayon snacking. Anobli par les chefs qui les travaillent avec des ingrédients de premier choix, du pain à la garniture, en passant par les assaisonnements, nos casse-croûtes d'hier se sont peu à peu transformées en mets gastronomiques à part entière. On se penche sur ce dossier, évidemment croustillant, en compagnie des meilleurs spécialistes du moment, chefs et restaurateurs. Bonjour Laurent André.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes le chef exécutif du Grand Hôtel Intercontinental, Place de l'Opéra à Paris, et vous gérez aussi donc les cuisines du Café de la Paix. Laurent, pourquoi les clubs sandwich, les sandwichs et même les croque-monsieur ont toujours la cote ?
Je pense que c'est un peu le berceau de la cuisine française, c'est ce que le monde entier connaît. Pour avoir eu la chance de voyager dans le monde, je n'ai pas connu un pays où il n'y avait pas un club sandwich dans un restaurant ou dans un hôtel.
Même chose pour les sandwichs et croque-monsieur ?
Je pense que le croque encore plus que le reste. Les sandwichs, c'est un peu différent parce que chaque pays a son sandwich.
On va le voir ça, effectivement, que chaque pays a son propre sandwich national. Bonjour Alice Kamioka.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes la chef du Drugstore, une autre institution parisienne située au 133 avenue des Champs-Élysées. Alors Alice, lequel des trois est-ce que vous vendez le plus ? Le club sandwich, le sandwich ou le croque ?
Alors nous, on fait énormément de club sandwich, mais ça se voit un petit peu avec notre croque-monsieur au beurre truffé.
Ah oui, évidemment, là on est dans le très très haut de gamme. Est-ce qu'il y a un profil type de l'amateur de chacun de ces encas, Alice, en quelques mots ?
Disons que le club sandwich, il parle peut-être un peu plus à tout le monde. C'est-à-dire que ça peut plaire autant à des jeunes personnes qu'à des touristes. Tandis que le croque-monsieur, en général, ça touche peut-être un peu plus une clientèle peut-être un peu plus âgée et plus gourmet aussi.
Attention à ce que vous dites, hein, je suis plus
quand
âgée.
Quand je dis plus âgée, non mais attention, quand je dis plus âgée, on a aussi des jeunes personnes qui mangent des croque-monsieur. Hein,
Clémentine Bouchon, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes la chef des cuisines de l'hôtel Le Meurice, un palace parisien. Clémentine, pourquoi est-ce que ça colle à la peau des palaces, le club sandwich ?
On a une clientèle qui est internationale et c'est vrai que arriver de voyage et prendre un sandwich, un club sandwich ou un croque-monsieur qui est quand même un emblème de la capitale, ça reste quelque chose qui est vraiment commun et courant. Donc on est obligé d'avoir ces deux items-là à la carte.
C'est bizarre, mais dans l'imaginaire, on a l'impression que le palace est un petit peu le meilleur endroit pour venir déguster un club sandwich. Bon, je crois que Laurent n'est pas content. Il n'est pas d'accord.
Je ne suis pas palace, non, je ne suis pas d'accord.
Mais c'est pour ça qu'il faut venir dans les palaces, c'est sûr.
Il y a des 5 étoiles qui font très bien.
Bon, moi, je ne fréquente pas les palaces, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, j'adore les clubs sandwich. Et bonjour Moïse Fez.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur du groupe Homer Food. 12 restaurants en France, 9 à Paris, 1 à Marseille, 1 à Saint-Tropez et puis 1 à Dubaï. Non, Dubaï, ce n'est pas la France. Bon, vous avez un restaurant à Dubaï. Et vous déclinez deux concepts. L'un qui concerne les lobster rolls, c'est-à-dire les sandwichs au homard, et puis l'autre des sandwichs et club sandwich. Alors en quelques mots, Moïse, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous spécialiser sur ce créneau, la street food haut de gamme?
Alors, la street food m'a toujours passionné. Après, c'est dû à mes voyages. J'ai fait mes formations dans de la gastronomie et j'ai vraiment voulu prendre tout ce que j'ai appris au sein de la gastronomie pour l'appliquer en street food. C'était mon projet de base.
On va se pencher sur ce fameux club sandwich pour commencer. On va le scanner, on va essayer de comprendre comment il est fait et puis surtout les secrets de son succès. Ce sera juste après Nino Ferrer, Les Cornichons sur France Bleu.